Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Pile à l'heure aujourd'hui, comme les magiciens, bonsoir. Il est 6h avant minuit, vous écoutez Syllab, l'émission d'actu quotidienne de la radio. Un petit mot pour vous dire que nous sommes en direct du Liberté ce vendredi pour les transmusicales, un plateau de 3h. On finit par un DJ set, ce sera de 16h à 19h. Ne manquez pas ça, ce sera sur les ondes de Syllab en direct et puis à réécouter un petit peu après. Tout de suite, le flash d'Anthony.
Regain de tension en Syrie. Depuis la semaine dernière, des djihadistes et des groupes rebelles mènent une offensive contre le gouvernement de Bachar el-Assad. Les djihadistes de Hayat Tahrir al-Sham ont mené cette attaque pour obtenir des territoires de Alep, la deuxième plus grande ville de Syrie, mais aussi quelques villages et des infrastructures de l'État syrien. Le bilan humain de ces combats est de 300 morts et de 28 civils. Les élections ont été violées et volées et ne sont pas reconnues par personne. C'est dans ces termes que la présidente géorgienne s'exprime au sujet des élections récentes ayant élu comme successeur un parti pro-russe. Fraude, manipulation et post-vérité. L'ingérence russe est directement pointée par celle qui défend l'intérêt d'une Géorgie pro-européenne. Elle sollicitera la Cour constitutionnelle pour invalider ses élections. Un procès historique pour notre planète a débuté aujourd'hui devant la Cour internationale de justice de l'ONU, à La Haye, aux Pays-Bas. Eva, qu'en est-il ?
98 États. 12 organisations font face à un panel de 15 juges au Palais de la Paix à La Haye, où est logée la CIJ, ou Cour internationale de justice. Quelques jours après le sommet de la COP29, c'est un procès international sur le climat qui a commencé ce matin et qui se clôturera le 13 décembre 2024. Pendant ces deux semaines, les pays sont invités à faire part de leurs observations sur le sujet en se basant sur deux grandes questions. La première, quelles obligations juridiques internationales pour la lutte contre le changement climatique doivent être prises par les États membres? La deuxième, quelles conséquences juridiques de ces obligations peuvent encourir les États pollueurs si elles ne sont pas respectées? Lors de ces deux semaines, les pays invités, les organisations invitées ou ont pour rôle de débattre et d'aider à définir les obligations juridiques qui seront nécessaires pour lutter contre le changement climatique dans les prochaines années. Un autre point important est lié à cette deuxième question des conséquences des grands pollueurs et à leur responsabilité sur les pays plus vulnérables au changement climatique. En effet, les États pollueurs causent indirectement des dommages aux petits pays à risque, où les changements climatiques, comme la montée des eaux, l'élévation de la température, les catastrophes naturelles, s'accentuent dans ces régions de façon exponentielle. Les zones les plus touchées, comme les îles du Pacifique, se reposent sur les pays plus riches et aussi très souvent moins impactés, ce qui crée un déséquilibre des forces. Ce matin, à l'ouverture des audiences, les représentants du Vanuatu et d'autres îles à risque de l'océan Pacifique ont lancé les débats. Ralph Regen Vanu, un représentant du Vanuatu, a déclaré face au panel, je cite, « L'issue de ces procédures aura des répercussions sur plusieurs générations, déterminant le sort de nations comme la mienne et l'avenir de notre planète. » Les militants espèrent que l'avis des juges de la Cour internationale de justice aura des conséquences juridiques importantes face aux grands pollueurs et dans la lutte contre le changement climatique. Mais d'autres pensent que l'impact des témoignages des pays, plus particulièrement des pays vulnérables, sera limité. Lors de la COP29, une conclusion importante du sommet évoquait le financement de la lutte contre le changement climatique. 300 milliards de dollars par an payés par les pays développés d'ici 2035. Mais l'accord final de la COP29 n'a pas mentionné l'engagement mondial d'abandonner les combustibles fossiles, des ressources non renouvelables particulièrement influentes sur le changement climatique. Cette décision a marqué les esprits des chefs d'État des pays les plus pauvres participant à ce procès, qui ont qualifié l'engagement des riches pollueurs d'insultant, selon France Info.
Presque pareil.
L'avis du panel de la Cour internationale de justice sera très certainement déterminant, mais il est probable que les réponses finales de la Cour internationale de justice ne soient pas rendues avant des mois.
Son business à lui, en tout cas, n'est pas très éco-friendly. Carlos Tavares, patron emblématique du groupe automobile Stellantis, a présenté hier sa démission. Une démission contrainte par le conseil d'administration de la firme. Le PDG de 66 ans devait garder les rênes de l'entreprise pendant un an avant de prendre sa retraite. Les raisons de ce départ forcé, un management jugé brutal et une pression excessive sur les équipes. Poussé vers la sortie, mais avec classe, Carlos Tavares devrait toucher une indemnité de plusieurs milliers de millions d'euros. Cela s'annonçait comme une évidence depuis quelques jours, mais les yeux doux de Michel Barnier à Marine Le Pen n'auront pas suffi à le maintenir en place. Cet après-midi, notre très probable futur ex-premier ministre a engagé la responsabilité du gouvernement par l'article 49.3. Les risques de chute du gouvernement via une motion de censure transpartisane LFI-RN sont donc de plus en plus probables. À Rennes, la douane a retrouvé 9,520 kg de produits de contrebande. En effet, 476 paquets de cigarettes ont été camouflés à travers 7 poteaux d'acier entourés de films plastiques. Les auteurs seraient des trafiquants. Le reverbère lumineux, corde vocale qui s'éraille, c'est encore le Rennes qu'on aime. Focus par Julien et Elise sur le week-end culture. Barbare dans la capitale bretonne.
Vendredi dernier, à la nuit tombée, nous avons erré dans le centre-ville de Rennes. De nombreux bars rennais, à l'occasion du festival culture barbare, ont fait résonner les guitares et les batteries. Retour au bistrot de la cité où s'est produit Carnage Picnic et Hot Flowers.
Avec Jean-Noël, le patron du bar du Bistrot de la Cité. Du coup, qu'est-ce que c'est le festival Culture Barbare ?
Alors c'est un festival musical de culture barbare, avec le nom, comme le nom l'indique, des bars et des barbares. Le festival Culture Barbare, ça se passe, est organisé par une association qui est là pour aider les petits lieux de spectacle et les renseigner sur leurs droits, leurs devoirs en même temps.
Pourquoi est-ce qu'à Rennes, il y a beaucoup de concerts ?
Parce qu'à Rennes, d'habitude, il y a toujours beaucoup de concerts. Donc c'est culturel chez nous. Donc la culture barbare, elle est très imprégnée à Rennes. Même si, à l'origine, l'association barbare est nantaise.
Et Aurélie et Anna nous donnent leur impression.
Qu'est-ce que ça représente pour toi, le barbare ? Est-ce que tu y es déjà allé ou c'est la première fois ?
Non, c'est la deuxième fois que j'y vais. J'avais été l'année dernière, enfin, j'ai découvert cet événement à Nantes l'année dernière. Et en fait, que ça représente juste plein de découvertes. Et j'ai l'impression que c'est un peu une sorte de fête de la musique, mais version automnale. Et c'est pas mal. Voilà.
C'est aussi cool pour découvrir des autres bars et de la musique, de la nouvelle musique.
Enfin, je trouve que là, c'est un peu une carte au trésor des concerts aussi dans une ville que tu aimes bien et que tu de la découverte et plein de belles choses à découvrir du coup pour le coup. Ouais.
Demain, Dominique Boulier, professeur des universités émérite en sociologie à Sciences Po, animera une conférence. Elle a lieu au Champ Libre à Rennes. Le titre de la conférence est « L'ère des propagations, une nouvelle dimension du social ». Elle portera sur la diffusion des informations, des consignes et des données, mais aussi l'étude des fake news, des mèmes, des paniques boursières, des innovations. Et encore, la liste est non exhaustive. Rendez-vous demain à 20h30.
Merci Anthony pour ce flash. Eva a deux invités ce soir.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Que ce soit sur un pull ou sur une veste, ils ont tous les deux décidé de porter des rayures ce soir. Tommy et Malo, qui ne m'ont pas donné leur nom de famille, peut-être pour rester discret, je ne sais pas. Tommy est un travailleur social et Malo est le directeur du dispositif 1 chez soi d'abord. Bonsoir.
Bonsoir.
Tout d'abord, est-ce que on peut présenter qu'est-ce que le dispositif 1 chez soi d'abord ?
Donc un chez soi d'abord, c'est un dispositif qui se déploie sur l'ensemble du territoire français, qui a pour visée de faire de ce qu'on appelle de l'housing first. L'housing first, donc du logement d'abord. La mission pour laquelle du coup nous sommes là, c'est de permettre à des personnes qui sont en errance absolue, donc des personnes qui vivent à la rue et qui présentent des troubles de santé mentale sévères, d'avoir accès en premier lieu à un logement. Voilà, et le point de départ, c'est d'être logé. Et ensuite, derrière, il y a tout un accompagnement médico-social intensif qui se met en place en fonction des souhaits, des envies et des besoins de la personne. Trois grands axes d'accompagnement, ce qu'on appelle d'abord une visée au rétablissement en santé mentale. Et après, derrière, on va s'appuyer sur les rêves de la personne via aussi une approche de réduction des risques.
Vous avez parlé que c'était dans beaucoup de villes en France. Depuis combien de temps exactement est-ce que c'est développé à Rennes ?
Alors nous, le dispositif, il s'est lancé en septembre 2022. Donc on vient de fêter les 2 ans. On est ce qu'on appelle nous encore des bébés. Voilà, mais il y a 38 sites qui se sont déployés sur l'ensemble du territoire français, Dom-Tom compris, Martinique et Réunion. Voilà, et c'est la suite d'une expérimentation qui s'est déroulée entre 2011 et 2016. Sur 4 grandes métropoles en France et qui donc du coup a permis de démontrer des résultats plutôt probants qui a conduit derrière à ce qu'il y ait des pérennités financières qui s'installent par des financements via les services de l'État et les services des agences régionales de santé et qui ont du coup permis à ce que des dispositifs comme celui de Rennes se mettent en œuvre à partir de septembre 2022.
Voilà. Et comment est-ce que ça se passe tout d'abord pour créer les contrats Quelles sont les étapes de votre dispositif ?
Les étapes pour
Faire partir,
les personnes.
Faire partie du dispositif.
Alors nous, comme on est un dispositif médico-social, on s'appuie en grande partie sur les partenaires du territoire, partenaires au niveau des structures sociales, des structures médico-sociales, des hôpitaux aussi. Les personnes qu'on accompagne sont des personnes qui tiennent rarement sur la durée dans des structures type d'hébergement pour personnes en situation d'errance, des personnes qui ne tiennent rarement en hospitalisation parce que les cadres et les règlements intérieurs sont parfois un petit peu trop amènent trop de contraintes pour les personnes qu'on accompagne. Donc nous, on se base principalement sur les partenaires qui nous orientent les personnes qu'on accompagne via un dossier d'orientation, via une commission d'orientation qui vient on va dire cocher un certain nombre de critères. Malo le disait tout à l'heure, le critère premier, c'est d'être en situation d'errance. Pour ça, on se base sur des typologies qui existent au niveau européen, sur c'est quoi une personne qui est en situation d'errance. Et ensuite, on se base aussi sur un diagnostic médical. Il y a un diagnostic de troubles psychiatriques qui doit être posé par un médecin psychiatre, même si nous, dans le cadre de notre fonctionnement, ce que Malo évoquait tout à l'heure sur le rétablissement en santé mentale, le diagnostic ne nous importe pas forcément beaucoup. Il peut nous donner des clés de lecture, mais ce n'est pas forcément ce qu'on va regarder en premier.
Donc le contrat, ça ne diffère pas selon peut-être les troubles psychiatriques que vous rencontrez, selon les personnes aussi
Non, tout à fait. En fait, nous, à partir du moment où les personnes sont orientées sur le dispositif, c'est-à-dire qu'elles ont rencontré à un moment donné un travailleur social, un soignant, un infirmier, que ce soit en rue, dans des structures d'hébergement, parfois même des personnes qui sont aussi incarcérées, parce que ça fait partie aussi des parcours des personnes qu'on accompagne, de connaître à un moment donné des périodes de détention. À partir du moment où les personnes sont orientées sur le dispositif, nous on les accompagne à partir de là. Les personnes, un des critères aussi qui est assez important pour nous, c'est que les personnes doivent être preneuses d'un logement, ce qui est quand même assez, au regard de la situation actuelle, ce qui est quand même assez important, et d'avoir un accompagnement aussi. Alors l'accompagnement, il est intensif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il est intensif et il est aussi à la carte. C'est-à-dire que nous, on fait de l'accompagnement individualisé, très individualisé. On va là où vont les personnes. On prend souvent la métaphore du pilote et du copilote de l'avion. Bah, le pilote de l'avion, c'est la personne qu'on accompagne. Les copilotes, c'est l'ensemble de l'équipe d'accompagnement du dispositif. Et donc ensuite, les contrats, donc il y a un contrat d'engagement, un contrat d'accompagnement qui est signé entre la structure, entre nous et la personne accompagnée, parce que ce sont des mesures aussi légales, on doit répondre à un certain nombre de textes. Et puis, les personnes ensuite sont locataires de leur logement. Quand on leur propose un logement, elles n'ont plus forcément le statut de... Elles n'ont plus du tout même le statut d'être hébergées. Elles ont le statut de locataire, et donc avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que n'importe quel locataire lambda.
Et donc, vous avez parlé aussi des personnes qui se font incarcérer ou qui sont hospitalisées. Est-ce que si ces personnes retournent à l'hôpital ou retournent en prison, est-ce que le contrat y change? Est-ce qu'il s'arrête? Comment ça se passe?
Alors, le parcours est non linéaire. Les personnes qu'on accompagne ont des parcours vraiment pas du tout linéaires. C'est fait de ruptures, parfois dès l'enfance. C'est des personnes qui ont été en famille d'accueil, ont été en structure d'hébergement étant jeunes. Donc le parcours est fait de rupture. Nous, ce qu'on veut éviter, c'est les nouvelles ruptures, les nouvelles rechutes. Donc quand une personne est incarcérée, on maintient le contact, on maintient le lien tant qu'on peut. Quand les personnes sont hospitalisées, il en est de même, on continue à aller les voir une fois par semaine, peu importe le statut de l'hospitalisation, si c'est des hospitalisations sous contrainte où il n'y a pas de possibilité de sortir de l'hôpital, on va quand même aller leur rendre visite dans l'unité. Ce qu'on veut favoriser, nous, c'est l'autonomie des personnes et de pouvoir, à un moment donné, faire en sorte que le logement, leur logement, soit une première étape vers une autonomisation, une réinsertion qui peut parfois prendre du temps, parce que finalement, ça prend du temps pour tout le monde.
Et au sein de votre dispositif, est-ce que vous pouvez me parler, par exemple, de votre équipe? Comment est-elle composée?
Donc, c'est une équipe pluridisciplinaire qui est composée à la fois de professionnels de l'accompagnement social, voilà, Tommy est éducateur spécialisé, voilà, des professionnels type profil assistants sociaux ou conseillers en économie sociale et familiale. On a également des professionnels du soin, avec là on va avoir des infirmiers, infirmiers et infirmières, et on a également un médecin psychiatre. On a également des professionnels de la gestion locative, c'est-à-dire qu'on est un dispositif de Housing First, donc on fait du logement d'abord, donc on a aussi des professionnels qui sont là dans ce qu'on appelle la gestion locative adaptée, donc c'est une gestion locative qui s'adapte aussi aux situations sociales ou sanitaires des personnes. On a un certain nombre de professionnels de fonction support, voilà, des comptables, un directeur, voilà. Et on a également du coup une des particularités du dispositif à chez soi d'abord, c'est d'avoir à l'intérieur de son équipe des travailleurs pairs. Donc des travailleurs pairs qui sont des personnes pour qui leur expérience diplômante, c'est leur parcours de vie. Donc des personnes qui, par exemple, vont pouvoir s'être rétablies d'une problématique de santé mentale, ou des personnes qui ont pu être prises dans des parcours d'errance eux-mêmes et qui n'ont du coup à un moment dans leur vie s'en sont sorties, ou des personnes pour qui leur expérience de vie, leur savoir expérientiel est lié à leur parcours de consommation, par exemple, et ancien parcours d'addicto. Voilà, et donc du coup c'est une des particularités de la composition de l'équipe, c'est-à-dire que voilà, on fonctionne aussi avec une relation plutôt horizontale dans les métiers, dans le sens où chacun a sa place, chacun a un avis possible à donner, et que ça n'est pas un avis prégnant sur les autres. L'idée de notre rapport aux personnes qu'on accompagne, c'est de pas se présenter en tant que métier mais en tant que personne. Par contre, du coup, l'équipe, elle est composée de différents types de métiers, et donc, du coup, permet une complémentarité par cette pluridisciplinarité.
Vous mettez donc beaucoup le logement en avant et cet accompagnement intensif, et garder ce lien pendant l'hospitalisation et de travailler avec ces travailleurs pairs et ces personnes. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment vous gardez ce lien quotidiennement pendant des activités, ce genre de choses?
Alors la grosse activité qu'on a se base sur ce qu'on appelle des VAD, donc des visites à domicile. Alors visite à domicile ne veut pas dire forcément qu'on se rend dans les logements des personnes. on peut le faire, mais on va surtout se rendre disponible et pouvoir se rendre là où les personnes sont. Donc, en l'occurrence, ça peut être se retrouver dans un café, partager un café et discuter de démarches administratives qui sont à faire, de petites difficultés qu'il peut y avoir dans le logement, de petites difficultés techniques. Nous, ce qu'on veut, on fait de l'aller vers. Ça veut dire que nous, on a des locaux dans lesquels on ne reçoit pas les personnes qu'on accompagne. Nous, on se rend là où elles sont. On parlait tout à l'heure des hospitalisations et des incarcérations. On se rend dans les centres pénitentiaires. On se rend à l'hôpital. On se rend là où elles sont. Ça fait une force parce que finalement, le poids de l'institution est beaucoup moins présent puisque le cadre, le règlement, c'est un petit peu les personnes accompagnées qui peuvent aussi le poser. Quand on est dans une structure d'hébergement pour personnes sans abri, le cadre est souvent posé par l'institution. En l'occurrence, ici, c'est les personnes qui le posent un petit peu.
Des supports qu'on peut avoir vont être à la fois de l'accompagnement social un peu classique tel qu'on peut le connaître habituellement, voilà, avec ce qu'explique Tommy, des visites à domicile, des démarches d'accompagnement, un soutien pour aller remplir un dossier, être soutenu dans le cadre de d'éventuels besoins, rencontre avec un centre médico-psychologique, une démarche administrative quelconque, et on va également avoir des supports plutôt de vie quotidienne. Donc les supports de vie quotidienne, on va pouvoir les vivre aussi lors des VAD, avec le fait d'accompagner les publics sur le besoin de faire des courses, le besoin d'habiter son logement, le besoin de faire des rencontres avec ses voisins, le besoin d'apprendre à cuisiner, etc. Mais on va aussi avoir tout un panel d'activités, de ce qu'on appelle des activités plus collectives. L'objectif étant de pouvoir faire du lien aussi. Alors d'abord peut-être de créer des activités collectives en mode convivialité, des activités de repas, des activités musicales, des activités sportives, mais aussi dans un objectif à la fois de créer de la relation sociale et peut-être d'essayer d'amener les personnes aussi vers du droit commun. Ces moments partagés, qui peuvent être partagés par n'importe quelle personne professionnelle de l'équipe. Voilà, quand le médecin psychiatre de l'équipe est amené à aller jouer au foot avec les locataires, ou lorsque du coup l'infirmière est en train de cuisiner les oignons et de pleurer en même temps que le locataire pendant qu'il prépare un repas commun, pardon. Ça permet de vivre.
Ouais.
Un repas commun, exactement. Et c'est pas un lapsus tant anodin que ça, finalement. Ça permet de vivre des supports de relations qui sont bien différents du rapport d'aide habituel d'une intervention professionnelle. Et donc du coup, via ces rapports-là, mais c'est aussi parce qu'on en a le temps, ça crée des espaces de relations qui permettent, dans l'adversité, lorsqu'il se passe un certain nombre de choses après, peut-être de pouvoir s'appuyer aussi sur ces moments partagés.
Et donc, à quel moment est-ce que ce contrat et ce dispositif, il s'arrête et que la personne est autonome?
Devient-on réellement autonome un jour, totalement dans sa vie, ou en tous les cas, qu'est-ce que ça veut dire finalement d'être autonome? Est-ce que l'autonomie, c'est ne plus avoir besoin des relations avec les autres? On se détache peut-être un tout petit peu de ça. Une des chances du dispositif, mais c'est pas anodin, c'est pas que parce que c'est une chance, c'est aussi parce que ça a été quelque chose qui a été évalué dans la phase expérimentale. Ça s'arrête quand la personne l'estime ne plus en avoir besoin. C'est pas nous, professionnels, qui pouvons décider de quand est-ce que la personne est guérie. Et finalement, est-ce qu'on guérit de la vie? Je ne sais pas. En tous les cas, il n'y a pas de délai. Le délai, ça va être le besoin ou le souhait de la personne de s'arrêter ou de passer à une autre étape. Tommy le disait tout à l'heure, l'agenda que nous avons dans l'accompagnement, c'est l'agenda des locataires. Le projet que nous accompagnons, c'est le projet du locataire. À partir de ce moment-là, la temporalité, elle s'inscrit dans ce que la personne souhaitera. Ça va même jusqu'à lorsque des personnes, ce sont des personnes qui ont vécu des parcours complexes. Ça arrive que du coup, il y ait des moments dans leur parcours qui soient pour lesquels il y a des nouvelles ruptures qui s'installent. Notre temps d'accompagnement, il va aussi s'inscrire là-dedans. C'est-à-dire que si la personne, pendant plusieurs mois, elle n'est plus en contact avec nous, sa place n'est pas remise en cause.
Et est-ce que je peux vous demander à combien de personnes bénéficient actuellement de dispositifs?
Alors le dispositif Un chez soi à Rennes, il est dimensionné normalement pour pouvoir accompagner 100 locataires. voilà, il y a deux grands types de dispositifs déployés en France, hein, des dispositifs de 55 places et des dispositifs de 100 places. Le dispositif de la métropole rennaise est un dispositif pour 100 locataires. On est aujourd'hui, on approche la moitié, on est bientôt à 50, on ne les a pas encore atteints. Évidemment, le besoin est énorme, les situations sont bien présentes, mais le métronome pour pouvoir accueillir les personnes et les accompagner dans de bonnes conditions, c'est d'avoir des logements. Et pour l'instant, on est à 50 à peine locataires, mais parce qu'on est à peine 50 logements captés par le dispositif.
Je peux me permettre, oui. Les logements, c'est des logements sociaux ?
Alors, on est ouvert à plusieurs types de logements.
Les gens qui nous écoutent et qui ont un appartement peuvent le mettre à votre disposition, par exemple.
Exactement. On a aujourd'hui quasiment un peu plus de 85%, presque 90% de notre parc qui est issu du parc privé.
Ah oui, quand même.
Et donc, du coup, la manière dont on fonctionne, c'est qu'on s'appuie alors, à la fois sur le partenariat, mais aussi via un des membres fondateurs du dispositif, qui est l'agence immobilière à vocation sociale. Donc, il y a elle-même dans son parc un certain nombre de logements qu'elle peut nous mettre à disposition, mais aussi la manière dont on fonctionne, c'est pas mal par bricolage. Voilà, on a des notifications sur le Bon Coin, on scrute le Ouest France tous les jours sur les annonces de logements qui sont disponibles, et on a un certain nombre de propriétaires solidaires, c'est comme ça qu'on les appelle, en tous les cas pour qui le souhait de louer le logement devait être relié à une vocation sociale. Voilà, et c'est une grande part aujourd'hui de notre parc. Évidemment, c'est un appel, merci.
Et donc, comment ça se passe donc, avec les propriétaires? Est-ce que c'est vous qui louez le logement? Est-ce que c'est la personne?
Alors, Tommy le disait tout à l'heure, les personnes, elles sont chez nous sous un statut de locataire ou de sous-locataire. Juridiquement et administrativement, pardon, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les droits et devoirs d'un locataire sont exactement les mêmes pour un sous-locataire. Par contre, on est, nous, habilités à faire ce qu'on appelle de l'IML, de l'intermédiation locative. Ça veut dire que, du coup, on est habilité pour pouvoir louer un logement à un propriétaire et administrativement à le sous-louer à quelqu'un qui est locataire, ce qui n'est pas le cas pour n'importe qui. Il faut avoir une habilitation pour ça, et l'habilitation dans le cadre de l'intermédiation locative, on l'a. Donc on est en général, nous, les locataires du propriétaire, et on devient pseudo-bailleur pour que nos sous-locataires deviennent nos locataires.
Okay.
On garantit le paiement du loyer, on est à des financements publics qui nous permettent du coup d'assumer le paiement des loyers, et charge à nous de travailler avec nos sous-locataires pour que du coup leur situation administrative soit à jour et leur suivi de paiement de loyer soit actualisé. On garantit aussi en tous les cas la remise en état, c'est-à-dire que si jamais il y avait des problématiques de dégradation, et ça peut arriver que ce soit avec nos publics, mais en général ça peut arriver lorsque du coup on est en train de faire un changement de locataire. Et enfin, on va aussi pouvoir accompagner toute la médiation de voisinage ou toute la médiation d'habiter qui du coup peut arriver avec n'importe quel locataire. Voilà, nous on a toute une équipe qui derrière permet aussi de pouvoir faire cette médiation-là.
Je vais finir avec votre crémaillère qui est organisée le 3 décembre au Triangle pour célébrer vos 2 ans d'ouverture à Rennes. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'événement avant?
Oui, alors c'est un événement qu'on organise à destination principalement des partenaires et notamment des propriétaires qui nous fournissent des logements. L'idée de la crémaillère, c'était pour faire office d'inauguration de service, même si c'est 2 ans après. L'important, c'est de le faire. La crémaillère porte bien son nom puisqu'on travaille dans le logement et que lorsqu'on a un logement, souvent on fait une crémaillère. La question sera de discuter aussi de ce que c'est qu'habiter un logement. Malou a pu en parler un petit peu tout à l'heure. Nous, on part du principe que le logement, c'est une première étape vers une réinsertion. On accompagne des personnes qui parfois n'ont jamais eu d'expérience de logement et pour qui c'est parfois la première expérience de logement. Ce qui veut dire que ça ne sera pas ce logement-ci. Que le logement, il peut changer. Je pense qu'autour de la table, on est nombreux et nombreuses à avoir eu plusieurs logements dans lesquels parfois on s'y sent bien, un peu moins bien. Et les locataires qu'on accompagne sont aussi dans des situations comme celle-ci. Donc on va discuter un petit peu de ça sur l'événement de la crémaillère. Il y aura également un petit temps un peu plus officiel avec les discours des financeurs, avec les discours des administrateurs aussi du groupement de coopération qui porte le dispositif, et ça finira par un concert spectacle.
Oh.
Merci à tous les deux d'être venus à Scilab nous parler de Un chez soi d'abord. On passe à la chronique.
6 heures avant minuit.
Comme tous les lundis, c'est la chronique Fake News. Plusieurs polémiques et fake news sont apparues par rapport à un programme national qui n'a pourtant pas encore été présenté, celui sur l'éducation à la sexualité, Eva.
La présentation de ce programme est en effet prévue mi-décembre au Conseil supérieur de l'éducation, mais plusieurs figures politiques sont déjà à ses trousses. La première est la présidente du syndicat de la famille, anciennement connue sous le nom de la Manif pour tous. Dimanche 24 novembre, sur le plateau de CNews, elle a déclaré que le nouveau programme national d'éducation à la sexualité, je cite, « est un lavage de cerveau idéologique dès l'âge de 3 ans et que les adultes viennent parler de sexe à des enfants sans leur consentement. Cela pose problème. »
Mais alors, est-ce que c'est le cas ? Real or fake ?
Alors, en temps normal, je n'aurais pas la réponse car ce programme n'est pas encore partagé au grand public, mais il a été partagé à France Info la semaine dernière. Donc voilà ce qu'il en est de ce programme. Si on commence avec les plus petits, de 3 à 6 ans, le programme stipule que les enfants seront amenés à, par exemple, nommer les différentes parties du corps, mais également à identifier leurs émotions et leurs goûts sans prendre part aux stéréotypes de genre. Puis, à partir du CP et jusqu'en 6e, l'accent est mis sur les relations humaines, sur les différents modèles familiaux, sur le respect et l'estime de soi. Ils aident les enfants de primaire à savoir comment dire non et à identifier une situation de violence ou de harcèlement. Quant à la notion de consentement, le programme suggère que cette notion soit introduite en classe de CM2. Avant le collège, le programme se concentre sur l'éducation à la vie affective et relationnelle et les termes comme sexe ou sexualité ne sont pas mentionnés. Ces derniers sont évoqués au collège et au lycée avec des cours à proprement parler dédiés aux relations sexuelles à partir de la classe de 4e. Au collège et au lycée, le programme approfondit le sujet de respect de leurs droits et de celles des autres, mais aussi de leur image, de leur corps, et cherche à sensibiliser à l'intimité face aux réseaux sociaux. Donc, selon France Info, pas de mention de sexe aux enfants, non. Et la théorie du genre n'est pas non plus mentionnée dans le programme.
La théorie du genre, Eva.
Une autre polémique est apparue mercredi dernier concernant toujours le même, le fameux programme d'éducation à la sexualité. Cette fois, c'est Alexandre Portier, le ministre délégué à la réussite scolaire lui-même, qui a déclaré au Sénat que le programme est, en l'état, n'est pas acceptable, ramenant sur la table le sujet de la théorie du genre. Un concept flou, régulièrement brandi par des personnalités d'extrême droite comme Éric Zemmour récemment. Des conservateurs pour qui les gender studies, un véritable champ de recherche universitaire cherchant à expliquer les phénomènes sociaux genrés, tenteraient en réalité de lobotomiser les enfants en leur faisant oublier qu'ils sont filles ou garçons par exemple. Il s'agit donc ici d'une panique morale craignant un pseudo-risque civilisationnel. James Le Perlier, du mouvement inter-LGBT, s'est indigné de la polémique et a déclaré « L'idée est de faire croire qu'en parlant d'identité de genre, d'égalité filles-garçons, de sexisme ou encore de discrimination homophobe ou transphobe à l'école, on essaierait de pousser un agenda pour transformer les enfants en de parfaits petits LGBT. C'est n'importe quoi. » Au lendemain de la déclaration du ministre LR, sa ministre de tutelle de l'éducation nationale, Anne
Genetet,
issue du parti Ensemble, a publié sur son compte X que « la théorie du genre n'existe pas, mais l'identité de genre est une notion abordée au cours de la scolarité car c'est un programme qui doit permettre le vivre ensemble, de lutter contre le harcèlement et d'aborder avec les élèves des enjeux d'égalité ». Elle réaffirme également ses propos à l'oral lors d'un déplacement le jeudi 28 novembre que « la théorie du genre n'existe pas dans le programme ». À la base, initiée par l'ex-ministre de l'éducation nationale, Pape Ndiaye,
bravo.
En 2023, ce programme traîne depuis un an et demi sur la table du gouvernement. Selon la députée socialiste et membre du Conseil supérieur des programmes, Fatia Keloua Hachi, une modification dans un programme scolaire prend environ 6 mois. Elle ajoute qu'une fois le CSE consulté, le ministère peut publier un décret avec les nouveaux programmes qui entrent alors immédiatement en application. On devrait savoir si ce programme va être appliqué d'ici la mi-décembre.
Merci Eva, et on rappelle que la disparition de l'éducation sexuelle dans plein de classes fait en sorte que les jeunes se protègent de moins en moins, mettent moins en moins de capotes.
C'est vrai.
Donc voilà, vive l'éducation sexuelle.
Wouh !
Un dernier message.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô ?
Allô ?
Syllabe, la radio sauvage.
C'est la chanson de la raclette, c'est celle qui vous fait péter. C'est la chanson de la raclette, à vous de me la répéter. Et ce n'est pas une vraie chanson, si on parle pas de cornichons. Saisissez-vous donc d'un poêlon, et mettez dans de bon brometon. Et vous disposez d'un verre, mettez-y du bon vin dedans. Que ce soit du rouge ou du blanc, il faut pas que ça finisse par terre. La la la, bonne raclette. Ah la 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 la, bonne raclette.
Si vous voulez nous faire passer un message ou apparemment, visiblement, chanter
oui,
en live
chanter.
Sur Syllabe, hein, quoi que vous ayez à dire, ben, laissez-nous un message. Je vous redonne le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Merci à vous, merci Timothée pour la technique, on se retrouve demain.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe, la radio sauvage.